Europe 1, c'est arrivé demain.
Bonjour Aurélien Rousseau.
Bonjour.
Directeur général de l'ARS, l'Agence régionale de santé d'Île-de-France. Dites-nous d'abord quelle est la situation des hôpitaux parisiens aujourd'hui. Édouard Philippe disait il y a trois jours que le nombre de malades du Covid hospitalisés restait plus élevé que ce qu'il avait espéré.
Oui, les hôpitaux d'Île-de-France font toujours face à la vague, hein, que ce soit en réanimation, où nous avons 1191, le chiffre précis, personnes en réanimation avec le Covid, et 500 personnes qui sont en réanimation, qui n'ont pas le Covid. Ça veut dire qu'on est toujours bien au-delà de nos capacités normales. En temps normal, on a 1200 lits de réanimation en Île-de-France. On est monté en avril jusqu'à 3000 lits occupés. Ça a été une mobilisation exceptionnelle des soignants au premier chef, mais de tout le système de santé public, privé. Là, nous sommes plus bas, mais on est toujours dans une situation de tension avec une forte présence du Covid dans tous les services. On parle beaucoup de réanimation, mais c'est dans tous les services.
Vous avez toujours des soignants venus en renfort d'autres régions ?
On a des soignants venus en renfort, ceux d'autres régions sont pour la plupart repartis, enfin ils repartaient cette semaine, il y a d'ailleurs de très belles images de leur retour, je pense notamment à une équipe qui est revenue à Limoges, mais on a aussi beaucoup de soignants qui sont venus en renfort d'Île-de-France, hein, qui sont des professionnels libéraux ou des professionnels de clinique qui sont venus aider pour qu'on puisse avoir le nombre suffisant de personnel en réanimation, et ça il faut aussi le dire, on a eu toujours la capacité d'hospitaliser les personnes qui en avaient besoin. En Île-de-France, on a fait face à cette vague. Il y a eu quelques jours pendant lesquels on était à quelques lits près, mais ces lits, on les a trouvés, on les a ouverts avec des personnels, avec des respirateurs et avec les médicaments qu'il fallait pour prendre en charge nos concitoyens.
Donc on est toujours sur le fil, il faut à tout prix éviter une deuxième vague, un deuxième afflux de malades du Covid. C'est une crainte à la veille du déconfinement, Aurélien Rousseau.
Oui, c'est une crainte parce que, je le disais, le Covid, il est présent dans tous les établissements. On est sur une ligne de crête parce que, dans le même temps, on sait que nous devons reprendre, y compris une activité hospitalière, reprendre des interventions qui avaient été repoussées, parce que le renoncement aux soins est aussi une de nos grandes inquiétudes. Donc on entre dans cette phase très progressive de déconfinement, avec à la fois de la confiance, parce que le confinement a permis de réduire très significativement le nombre de cas, et ça c'est à chacun de nous qu'on le doit, et avec en même temps beaucoup de vigilance, et on va être les yeux rivés sur tous les indicateurs, le nombre de passages aux urgences, le nombre d'appels au SAMU, évidemment le nombre d'entrées en réa, pour vérifier qu'on n'ait pas une deuxième vague qui arrive, parce que la distanciation physique notamment serait trop peu respectée et qu'on aurait à nouveau des chaînes de contamination qui recommenceraient à se développer.
D'où la stratégie qui va être mise en œuvre pour contenir l'épidémie, détecter chaque malade. D'abord, vous demandez à tous ceux qui pensent avoir des symptômes de ne pas tarder, d'alerter leur médecin.
Absolument. Peut-être ce qu'il faut redire, c'est que nous sommes aujourd'hui à un nombre de nouveaux cas par jour qui est beaucoup plus faible que ce qu'il a été au moment du pic de l'épidémie. C'est donc parce qu'on a réussi ça collectivement, parce que les Français l'ont réussi, qu'on est capable de déployer une stratégie qui va nous amener à nous projeter, à suivre tous les malades, à les repérer, les dépister, ensuite faire ce traçage et ensuite à les isoler. L'isolement, c'est une sorte de confinement, mais ciblé sur les personnes malades et sur leur sujet contact. Et donc oui, nous sommes en situation de mettre en place cette stratégie. Et cette stratégie, elle a pour but de casser les chaînes de transmission et donc d'étouffer, vous l'avez dit dans le lancement de ce reportage, de cet entretien, d'étouffer tous les petits foyers de contamination qui pourraient naître. C'est ça l'enjeu, et donc le premier point, le premier acteur, mais comme pour le confinement, ce ne sont pas les autorités publiques, ce ne sont pas les agences de santé, ce n'est pas l'assurance maladie, le premier acteur, c'est chacun de nous qui, face à un symptôme, doit aller consulter son médecin, même un symptôme qui paraît léger, parce que dès qu'il aura un symptôme, son médecin va lui prescrire une PCR, donc un test virologique, et à partir de là, on va lancer la procédure de tracing pour que toutes les personnes qui ont été en contact rapproché avec cette personne, soient isolée et donc ne contamine pas autour d'elle et protège les personnes fragiles autour d'elle.
Alors cette opération de traçage, elle pose beaucoup de questions. Aurélien Rousseau, directeur de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, vous restez avec nous, on va la détailler dans un instant, après une courte pause.
Europe 1, comme chaque dimanche, on vous retrouve Patrick Cohen pour cette arrivée demain.
Avec Aurélien Rousseau, le directeur de l'Agence de santé d'Île-de-France. Alors expliquez-nous ce que vous allez mettre en œuvre avec vos agents, ceux de l'assurance maladie et les médecins de ville. Chaque malade identifié fera l'objet d'une enquête pour savoir qui il a approché, qui il a fréquenté les jours précédents. Comment ça va se passer ?
Oui, le but, je le disais, c'est de casser les chaînes de transmission. Donc une personne va aller chez son médecin. Le médecin, suivant les symptômes, va lui prescrire une PCR, donc ce test. Et à partir de ce moment, on va identifier toutes les personnes avec qui elle a été en contact rapproché. Le médecin, il va sans doute se concentrer sur les personnes de l'entourage familial, mais il va recueillir la liste des contacts de cette personne. Et ensuite, des agents de l'assurance maladie vont appeler ces gens, vont les appeler en leur disant qu'ils ont été en contact avec une personne qui a le Covid. Et donc, à partir de là, on va leur donner des conseils, leur prescrire un test PCR, leur donner un arrêt de travail et puis leur donner des conseils concrets pour leur organisation à domicile. Encore une fois, c'est une sorte de confinement, mais à plus petite échelle. C'est un isolement qui va permettre en fait d'étouffer les chaînes de contamination, parce que le risque, ce serait qu'une personne qui ignore qu'elle a été en contact avec une personne Covid+, après exporte le virus, le transmette. Donc, nous devons informer, ça va être des milliers d'appels, c'est le cœur du dispositif, c'est évidemment le couple entre le médecin et son patient, ça c'est évident, et le médecin et l'assurance maladie qui va passer ses coups de fil. Et par ailleurs, nous sommes en permanence en vigilance, parce que il y a ces situations individuelles et puis il y a des situations qui sont naturellement à risque. Si on a par exemple une personne Covid+ qui était enseignante ou dans un collège, ou une personne Covid+ dans un foyer de travailleurs. Donc là, c'est l'Agence régionale de santé qui va se préoccuper de ces situations, et y compris envoyer des équipes sur place, faire des prélèvements sur place pour donner aussi tous les conseils de gestion. C'est cette chaîne qui est une chaîne de professionnels, qui est une chaîne de personnes qui ont l'habitude de traiter des données de santé, qui va être mobilisée simultanément, un peu comme un pack, pour faire face à cette épidémie.
Alors d'abord, est-ce que c'est tous les contacts, parce que quelqu'un qui a une vie sociale normal ou qui circule, qui se rend au travail, qui fait des courses, etc., il voit beaucoup de gens, ou est-ce que c'est seulement les contacts les plus à risque?
Oui, c'est les contacts dont on considère qu'ils sont plus à risque, c'est-à-dire si vous avez été dans une distance de moins d'un mètre pendant plus de 15 minutes dans un espace confiné, qu'on va considérer que vous êtes un contact à risque. Si vous portez un masque, par exemple, et si vous avez eu un contact avec un masque, on va considérer que ce contact n'est pas à risque, ou il est à risque plus faible. Et en effet, là-dessus, on a aussi progressé depuis le début de l'épidémie. Au début de l'épidémie, dans les phases 1 et 2, dont on se souvient, les agences régionales de santé faisaient ce travail de traçage complet. Et par exemple, une personne qui avait pris le train, on identifiait avec la SNCF les deux rangs devant, les deux rangs derrière, pour aller contacter les personnes. Et donc, ce travail, ça nous a permis aussi de voir que les risques, ils sont essentiellement dans des contacts rapprochés, et que oui, les mesures barrières les limitent beaucoup. Donc, c'est pour ça qu'il y a un contact individuel, pour avoir ce dialogue avec la personne, et pour aussi établir un lien de confiance, puisque les personnes, quand on les contacte, elles font part d'inquiétudes, elles ont beaucoup de questions, et c'est pour ça que ce sont des professionnels, évidemment les médecins, les agents de l'assurance maladie ou les agents des ARS qui vont être à leur contact pour leur donner toutes les réponses.
Et précisément sur l'exemple que vous avez cité, sur les deux rangs devant, deux rangs derrière dans une rame SNCF, il n'y avait pas de contamination ?
Mais on s'est aperçu qu'il y avait dans ces cas-là très peu de contamination quand les gens restent à leur place. Mais c'est pour ça que ça passe par un interrogatoire, pour prendre ce terme, parce que oui, il y a une enquête épidémiologique. Et si la personne a discuté de près avec ses voisins de voiture, en effet, on va sans doute regarder cela comme plus risqué. Mais le cœur, c'est d'identifier les cas dans lesquels il y aura eu des contacts rapprochés. C'est Santé publique France qui définit ce type de contact rapproché. Et quand on a un doute, eh bien, on approfondit le dialogue, voire même on se déplace à domicile pour aller comprendre. Ouais. On peut avoir un doute parce que la personne ne comprend pas forcément ce qu'on lui dit. On peut avoir un doute parce qu'il y a des publics fragiles, ou on peut avoir un doute parce que on sait que la personne vit dans un tout petit appartement et il faut l'aider à mettre en place cet isolement.
Aurélien Rousseau, tout cela suppose des moyens humains considérables. Est-ce que vous aurez les moyens de traiter un grand nombre de cas? Combien de cas, combien d'enquêtes pouvez-vous mener chaque jour?
Écoutez, en Île-de-France, nous nous sommes mis en situation de faire face à 1200 nouveaux cas de Covid par jour. L'enjeu majeur, je le redis, c'est de les repérer, c'est donc le dépistage, c'est donc que les gens aillent chez leur médecin au moindre symptôme. Et ensuite, à l'échelle nationale, l'assurance maladie, c'est plus de 6500 collaborateurs qui vont passer ces coups de fil. Ce sont évidemment des dizaines de milliers de médecins généralistes, mais ce sont aussi tous les professionnels de santé qui doivent conseiller à leurs patients d'aller voir le médecin. Et du côté des agences régionales de santé, si je prends l'exemple de l'agence régionale de santé Île-de-France, dès demain, c'est un plateau entier du siège de l'agence qui va être consacré à ça, avec entre 150 et 200 agents qui vont faire ce travail de recherche des clusters, de recherche des situations complexes. Et ce sont dans tous les départements, dans toutes les délégations départementales des ARS, des équipes, y compris des équipes mobiles, qui vont devoir aller se projeter. Et ce week-end déjà, on a eu plusieurs cas, plusieurs signalements dans lesquels ce dispositif, on n'est pas encore le 11 mai, mais on a déjà commencé à le rôder.
Cette stratégie-là, elle n'était pas possible, il n'était pas possible de la mettre en œuvre avant pour éviter le confinement ?
Cette stratégie-là, on l'a mise en œuvre avant. C'est d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais pendant plusieurs jours, même plusieurs semaines, tout le monde attendait le passage au niveau 3. Et on n'était pas au passage au niveau 3 parce que cette stratégie, elle a fonctionné. Elle a ralenti la progression du virus. Et si en Île-de-France, notamment, nous avons pu organiser le système de santé pour faire face à la vague, si nous avons pu monter la digue, c'est parce qu'on a eu ces précieuses semaines pendant lesquelles chaque jour des centaines de cas étaient identifiés, étaient suivis, étaient tracés. Et puis on a eu des épisodes, voilà, comme le rassemblement évangélique dans le Grand Est, qui ont fait que tout d'un coup, l'épidémie s'est mise à circuler à une ampleur qu'on n'avait pas connue, et c'est là qu'on a décidé le confinement. Et sans le confinement, on ne pourrait pas, on n'aurait pas pu en être là où on en est aujourd'hui, c'est-à-dire avec un nombre de cas par jour qui est très très inférieur, près de 3,5 fois inférieur à ce qu'il était au moment du pic de l'épidémie. Et donc là, c'est cette stratégie d'isolement qui prend le relais après le confinement.
Quid du secret médical, Aurélien Rousseau? C'est une question qui a beaucoup agité les députés lors de la discussion sur la loi d'urgence sanitaire. Les malades seront donc invités à livrer la liste de leur fréquentation, ça n'est pas un problème?
Plusieurs éléments là-dessus. D'abord, évidemment, les questions, elles sont parfaitement légitimes. Ce sont nos données personnelles, nos données de santé, nos données de vie quotidienne. Donc, c'est normal d'être extrêmement exigeant là-dessus. Donc, tous les dispositifs qui sont mis en place, et notamment tous les traitements informatiques, font l'objet d'une validation par la CNIL de tous les actes et les décrets qui vont les encadrer. Ensuite, je pense qu'il faut se redire pourquoi on fait ça. On fait ça pour protéger la population, et donc on a besoin de ces informations. Mais ces informations, elles ne sont pas traitées par n'importe qui, elles sont d'abord traitées par les médecins, puis par les agents de l'assurance maladie qui, au quotidien, manipule ce type d'information. Quand vous avez une affection de longue durée, ces personnels connaissent le motif, il est écrit, et ces personnels depuis toujours savent gérer ces sujets-là. Et du côté des agences régionales de santé, les équipes, elles travaillent toute l'année, tous les jours, sur la prévention de la tuberculose, de la rougeole, de la dengue, des méningites. Et c'est le même travail qu'on fait, c'est-à-dire celui qui consiste à partir de la personne malade, à remonter tous les risques de contagiosité. Donc, il faut, je pense, à la fois être exigeant, et c'est normal, il y aura un contrôle, y compris un contrôle parlementaire et citoyen sur tout ce qui se fait, mais il faut aussi avoir confiance dans la déontologie, et plus que la déontologie, le secret professionnel, il est y compris protégé, il est y compris sanctionné, son non-respect, mais c'est des données que manipulent nos collaborateurs, ceux de l'assurance maladie, tous les jours.
Merci beaucoup Aurélien Rousseau, directeur général de l'ARS Île-de-France. Merci de nous avoir accordé cet entretien.